l'apparition de la littérature apocalyptique, dans le siècle qui précède l'apparition du Christ, après une certaine orientalisation de l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ, la manière dont, par exemple, fait Florès les mystères venus d'Égypte, surtout sous les figures d'Isis ou de Sérapis, après la façon dont on se donne dans tous les cultes qui promettent quelque chose de l'ordre de l'au-delà, c'est-à-dire les cultes de mort et de renaissance, on peut dire qu'une grande vague religieuse recouvre à nouveau l'Empire à la fin du second siècle et au début du troisième siècle. C'est le moment où fleurissent les oracles, c'est le moment où on prend d'autant plus au sérieux la parole des Pythies ou des Sibylles, c'est le moment aussi où le stoïcisme a recouvert, si l'on peut dire, l'ensemble des territoires connus, le stoïcisme qui est une philosophie, mais qui est au fond d'abord un grand esprit religieux. Et c'est dans ce contexte que l'on va assister à la renaissance de la grande philosophie platonicienne, de ce que, à partir de Plotin, qui en est comme le fondateur, on va appeler le néoplatonisme. Le néoplatonisme qui, très vite, dans la manière dont il a cerné le fait que, à l'origine de toute chose, il y a un réel qui est au-delà de toute expression, au-delà de toute représentation, au-delà de tout discours, que d'une certaine manière on ne peut cerner que d'une façon négative, le néoplatonisme donc, qui va insister sur la partie divine de l'homme, sur la manière dont il peut y avoir une communication entre les dieux et éventuellement ce qu'il y a même au-delà des dieux et l'homme, et à travers le processus par lequel l'âme se ressouvient de sa nature et remonte vers son origine, la manière donc dont l'homme peut assurer ce qu'il y a de divin en lui. Bien entendu, on peut penser qu'il y a là en même temps comme un échange réciproque entre le christianisme qui a largement commencé à se développer et la philosophie, dans la mesure où le christianisme va recevoir l'empreinte platonicienne, mais où, sans aucun doute, la philosophie elle-même reçoit tout un certain nombre de réflexions, de thèmes qui lui proviennent du christianisme. Et c'est dans ces circonstances que va apparaître et s'affirmer le thème de la théurgie, c'est-à-dire précisément la manière dont l'homme peut trouver sa propre divinisation. Et pour réfléchir sur ce thème qui va courir à partir des élèves de Plotin jusqu'à la grande efflorescence dernière du néoplatonisme, c'est-à-dire Proclus et sa théologie platonicienne, nous avons pour nous accompagner, pour nous guider en fait dans ce déchiffrement, Karine Van Liefrange, qui est professeure de religion grecque à l'Université libre de Bruxelles et qui a consacré tout un travail extrêmement précis, extrêmement fouillé à ce thème de la théurgie. Cette théurgie, non, bien sûr, on doit d'abord se demander comment est-ce que, ne fût-ce qu'à grands traits rapidement, on peut la définir.
La théurgie pourrait être définie comme un ensemble d'actes, puisqu'on trouve dans le terme théurgie le mot grec ergon, un ensemble d'actes, un ensemble d'actions sacrées. Donc avec la théurgie, nous sommes dans le domaine du culte, dans le domaine du rite. Et ces actions, elles sont divines, puisque dans théurgie, on trouve aussi l'adjectif théos. La théurgie apparaît donc comme la mise en œuvre d'actions, de rituels, qui ont été transmis par les dieux aux hommes. Donc quand les hommes accomplissent un rituel, il ne s'agit pas d'une action humaine, mais d'une action divine. Et cette mise en œuvre, elle se fait par des symboles, grâce à des symboles divins également, des symboles qui ont été transmis par les dieux aux hommes. Donc si on devait dire ce qu'est un acte théurgique, on pourrait dire, mais de façon certainement abstraite, donc faut pas s'attendre ici à ce qu'on décrive un rituel comme le rituel d'un sacrifice, on amène un mouton à l'autel et puis on fait ceci ou cela. La théurgie se définit de façon assez abstraite comme un symbolisme actif, donc comme la mise en œuvre de symboles transmis par les dieux aux hommes.
Par la supplication, nous nous élevons bientôt jusqu'à l'être supplié. Nous acquérons la ressemblance avec lui par sa fréquentation continuelle. et nous parvenons peu à peu à la perfection divine depuis notre imperfection.
Si on se fonde sur les textes dans lesquels on rencontre le terme théurgie, chez les auteurs qui parlent de théurgie, il s'agit d'un rituel qui se démarque nettement de la magie. Donc contrairement à ce qu'on a pu dire jusqu'à il y a peu, le rituel théurgique n'exerce pas comme un rituel magique une contrainte sur les dieux, par exemple. Pour la bonne et simple raison, justement, que finalement sa mise en œuvre remonte aux dieux eux-mêmes. Alors si on se demande ce qu'est un rituel théurgique et qu'on se pose la question, par exemple, chez un auteur bien précis comme le philosophe Jean Blic, là, on va se rendre compte que quand on lit le traité de Jean Blic, qui est communément appelé les mystères d'Égypte, Jean Blic parle de trois rituels essentiellement, le sacrifice, la prière et la divination ou la mantique. C'est-à-dire que finalement, il revient aux trois actes constitutifs traditionnels du culte païen. Mais Jean Blic va faire, au sein de ces trois actes constitutifs, va établir une hiérarchie qui va aller, bien entendu, du sacrifice le plus matériel au sacrifice immatériel, incorporel, c'est-à-dire, finalement, à l'attitude religieuse, on pourrait dire, du mystique qui recherche l'union avec Dieu, avec des moyens qui sont, bien entendu, autres que les rites purement corporels ou matériels.
De Jean Blic, qui sont quand même dans les grands témoignages attestés que nous avons, on voit bien comment, je dirais, la position qui est la sienne n'est pas allée sans problème. Enfin, on connaît toute la querelle entre Porphyre et Jean Blic, justement, à propos des mystères d'Égypte, et on voit très bien qu'il y a une, je dirais, une espèce de résistance de la philosophie, même néoplatonicienne. Porphyre est aussi un élève de Plotin, toute une résistance, justement, devant, je dirais, ce nouveau chemin, en quelque sorte, pris cette nouvelle direction.
Oui, en effet, mais je ne suis pas tellement sûre qu'on puisse parler d'opposition véritablement au sein de l'école platonicienne. Je crois qu'il y a plutôt une évolution et que Jean Blic, grâce à la théurgie, a peut-être résolu une aporie qu'on trouve chez Plotin. Alors, de quelle aporie s'agit-il ? Eh bien, pour Plotin, les rites, d'une façon générale, qu'on les appelle théurgiques, traditionnels ou autres, les rites sont absolument inutiles pour que l'âme s'élève vers Dieu, parce que il développe la théorie que, avant de descendre ici-bas, disons, l'âme va laisser auprès de Dieu une partie d'elle-même qui est sa partie intellectuelle, ce qui va lui permettre d'établir, disons, de façon permanente, une connexion entre l'âme descendue ici, entre la partie de l'âme descendue et incarnée, et cette partie qui est restée là-haut. Et c'est cette connexion qui va permettre à l'âme de s'élever sans avoir besoin d'intermédiaires comme le rituel. Alors cette partie, Plotin le dit bien, c'est bien la partie intellectuelle de l'âme. Or, avec l'intellect, et ça je pense que Plotin le reconnaît bien, avec l'intellect, on ne peut pas arriver véritablement jusqu'à l'un. La remontée ne peut pas être complète. Et arriver jusqu'à un certain niveau grâce à l'œuvre de l'intellect, on est obligé, dit Plotin, d'adopter la méthode du comme-si, c'est-à-dire de faire comme si les choses étaient telles, alors qu'en réalité, on sait qu'elles ne sont pas. Donc, on voit visiblement que Plotin a essayé de trouver une méthode pour que la remontée s'accomplisse pleinement jusqu'à l'un. Alors Porphyre, je le situerais plutôt dans une période donc de doute entre Plotin et Jean Blic, mais Jean Blic, par contre, lui, va estimer qu'il y a moyen pour l'âme d'arriver, de remonter jusqu'à l'un, et Proclus va suivre sa trace un siècle plus tard, et Proclus va justement combattre cette théorie de Plotin en disant « Il n'est pas vrai que l'âme laisse là-haut une partie d'elle-même, elle descend tout entière ici, et c'est grâce au rituel qu'elle va pouvoir remonter, et elle pourra remonter jusqu'à l'un. Ce n'est pas par l'acte de pensée qu'on s'unit au Dieu. C'est grâce au symbole divin. » Donc ça, je crois que c'est une phrase clé dans le traité de Jean Blic, qui justement le démarque un petit peu, effectivement, de ses prédécesseurs. Ce n'est pas par l'acte de pensée que l'on s'élève jusqu'à Dieu, c'est par la mise en œuvre des symboles secrets qui ont été transmis par les dieux aux théurges.
pense pas aux mesures énormes de la Terre, car la plante de la vérité n'existe pas sur Terre. Ne prends pas non plus la mesure du soleil, en recueillant des tables. Il se meut par le vouloir éternel du Père, non à cause de toi. Laisse le vrombissement de la lune. Elle court toujours par l'œuvre de la nécessité. La procession des astres n'est pas engendrée pour toi. Les larges plumes des oiseaux du ciel ne sont jamais vérité, ni les parts des entrailles dans les sacrifices. Tout cela n'est que divertissement, soutien d'une tromperie commerciale. Toi, fuis cela, si tu cherches à ouvrir le paradis sacré de la piété, où vertu, sagesse et justice se rencontrent.
On a l'impression que lorsque la théurgie s'impose, je dirais, trouve un lien extraordinairement fort avec l'effort philosophique, il y a quelque chose d'extérieur qui est venu, qui est finalement d'un horizon religieux. Je veux dire, lorsque Jean Blic parle des mystères d'Égypte, lorsqu'on voit apparaître les oracles chaldaïques, on a l'impression que c'est vraiment une parole de révélation divine, et qu'elle est prise comme telle et pensée comme telle.
Il y a une anecdote qui est assez révélatrice à ce sujet, mais qui est tardive, puisqu'on la trouve chez Hypsellus, donc ça nous mène quand même au XIe siècle, de notre ère bien entendu, une anecdote qui dit que les oracles chaldaïques auraient été transmis par l'âme de Platon, l'âme de Platon qui aurait été évoquée dans un rituel d'évocation des âmes fait par Julien le Chaldéen, père de Julien le Théurge. Et finalement, cette anecdote, elle est révélatrice d'une chose, c'est que on a absolument voulu sacraliser la philosophie de Platon, qui est bien entendu devenue chez Proclus non plus une philosophie, mais une théologie, donc un discours divin, mais vraiment un discours divin dans le sens d'un discours transmis par les dieux eux-mêmes, comme la théurgie est un rite divin, c'est-à-dire un rite transmis par les dieux eux-mêmes. Donc on a un statut là à peu près équivalent entre la théologie et la théurgie, la théologie étant, disons, le logos, la parole divine, et la théurgie étant l'œuvre ou l'acte divin. Et donc, effectivement, ces oracles chaldaïques sont ainsi passés pour parole sacrée et pour parole sacrée de Platon. Donc, c'est la philosophie de Platon sacralisée, puisqu'elle est diffusée à travers le mode oraculaire.
Oui, mais alors, précisément, ces oracles chaldaïques, peut-on arriver à déterminer exactement quelle est leur origine, comment, en quelque sorte, ils s'imposent ? Puisque, on le disait, il y a le moment où ça va être vraiment la parole révélée, et je dirais les oracles chaldaïques, toutes choses égales par ailleurs, jouent un peu le rôle de ce que va être le texte sacré chrétien plus tard.
Oui, exactement. Mais avec les oracles chaldaïques, nous nous situons à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, et on est à une époque où fleurissent véritablement ces oracles qu'on va appeler des oracles théologiques, donc des oracles contenant un enseignement sur les dieux, et non plus des oracles qui vont contenir une réponse à une question bien précise et peut-être un peu plus pratique, comme on imagine traditionnellement qu'un oracle est. Donc là, on s'inscrit véritablement dans quelque chose qui était relativement courant à l'époque. C'est l'époque des oracles théologiques, comme on aura les oracles sibyllins, qui vont récupérer, bien entendu, la figure de la Sibylle, qui semble avoir été une figure oraculaire universelle, puisque même les auteurs chrétiens, peu de temps après, donc comme Eusèbe, par exemple, vont voir dans les oracles sibyllins l'annonce de l'arrivée du Christ. Donc c'est assez fabuleux de voir qu'à cette époque, on a un petit peu utilisé les grandes figures du paganisme pour attester différents messages théologiques ou philosophiques, qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens, finalement.
Nous devons nous dépouiller de nos nombreuses tuniques, de la tunique visible et charnelle, et de celles dont nous sommes revêtus à l'intérieur et qui sont contiguës aux tuniques de peau. Nus et sans tunique, entrons dans le stade pour y disputer les Jeux Olympiques de l'âme. Se dévêtir est le fondement et la condition sine qua non de la lutte.
Mais en même temps, s'il n'y a pas quelque chose qui... Bon, évidemment, je reprends les travaux ou les thèses, plus exactement de quelqu'un comme Dodds, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de filiation avec ce qui serait un vieux chamanisme grec, et je dirais cette évolution Et sa transformation d'ailleurs à travers la philosophie, dans la mesure où on trouve toujours cette idée, en fin de compte, déjà des Platon, des Lefèdre, de la possession par les puissances divines, et la manière dont l'homme s'assume dans ce que Platon appelle la bonne folie.
Oui, en effet, on peut voir les choses comme ça. Je dirais que dans les propos que venez de tenir, il y a quelque chose qui me choque un petit peu, c'est le terme chamanisme. Et c'est vrai que dès que je parle de théurgie, on me dit « Ah, alors c'est du chamanisme ». Je pense qu'on est là dans quelque chose d'essentiellement différent, parce que le chamanisme est une attitude religieuse dans laquelle l'homme va prendre l'initiative. Si on reprend la définition de Mircea Eliade du chaman, c'est quelqu'un qui possède une technique qui lui permet de faire sortir son âme, de la faire voyager, et puis éventuellement de la réintégrer, je veux dire physiquement. Et c'est vrai qu'on a chez Proclus des traces d'un rituel qui serait un rituel théurgique du même genre. Mais il ne faut jamais oublier que dans les textes qui parlent de théurgie, une chose est toujours bien affirmée: celui qui sera le protagoniste de l'action rituelle, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Et là, je pense qu'il y a une distinction fondamentale à faire avec le chaman.
Non, mais c'est pour ça, alors à ce moment-là, je vais beaucoup plus revenir au texte fameux texte du Phèdre sur les bonnes folies, sur les folies divines.
Oui.
Dans la mesure où c'est plutôt l'homme qui se met en état de réception par rapport aux puissances divines.
Oui, c'est ça. L'homme est récepteur, oui. L'homme est récepteur certains objets peuvent être des réceptacles, comme une statue peut être un réceptacle. On est là dans des différentes formes de théurgie. Effectivement, on reçoit la folie divine, mais on ne la reçoit pas de sa propre initiative, on ne la reçoit pas parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour la recevoir, c'est Dieu qui la communique.
Puisque nous parlons de Dieu ou des dieux, et on a l'impression qu'en réalité, dans le néoplatonisme et dans tout ce qui va avoir lieu à la théurgie, qu'est-ce qu'on entend exactement par Dieu? Parce que, par exemple, si on prend l'œuvre de Proclus, on voit qu'il y a les dieux supercosmiques, il y a les dieux hors cosmiques, etc. Donc il y a toute une hiérarchie extrêmement finalement compliquée. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on entend, ce mot de Dieu?
Mais on entend par Dieu, comment pourrait-on dire? Est-ce que Proclus, finalement, a défini lui-même le concept de divinité? Je pense plutôt qu'il a présenté les dieux comme des êtres supérieurs, avec infiniment de variantes entre eux. Tout ça dans un cosmos qui va... où l'on trouve une hiérarchie qui mène... De l'âme, et même en dessous de l'âme, des choses inanimées jusqu'au Dieu, et au-dessus des dieux, jusqu'à l'un. Alors, finalement, je pense que Proclus n'a pas vraiment ressenti l'utilité de définir la divinité, mais ce qu'il a voulu faire, c'est insister sur ces chaînes qui traversent l'univers, pour montrer aussi qu'il y a un cheminement qui peut mener jusqu'à l'extrémité de ces chaînes, jusqu'au Dieu et au-delà, jusqu'à l'un, et que en imaginant cette hiérarchie très complexe qui n'est que l'évolution de systèmes hiérarchisés qui remontent à quelques siècles avant lui, il a aussi voulu un petit peu faire ce que Jean Blic a fait, à savoir une œuvre de récupération, et placer quelque part là-dedans les dieux traditionnels. Donc, où est Zeus dans toute cette histoire? C'est vrai que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et Zeus dans tout ça, que devient-il? Eh bien, Zeus, il a sa place dans cette hiérarchie, justement parce que Proclus a complexifié un petit peu toute la hiérarchie des êtres supérieurs. Définir Dieu, je ne pense pas qu'il l'ait fait, non.
Ah, parce que je dirais, puisque vous parlez de Proclus, on a l'impression qu'il y a plusieurs niveaux. Lorsqu'on prend ces hymnes, l'hymne d'Aphrodite, par exemple, on voit très bien quelle est la correspondance entre Aphrodite et l'âme du monde. Mm-hmm. Là, c'est assez clair. Mais lorsqu'on parle, je dirais, peut-on se servir de ce mot, du divin en lui-même, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas le rapporter? Enfin, c'est-à-dire, Ce que serait Dieu au fond du fond, si l'on peut se permettre cette expression, est-ce qu'il ne faudrait pas remonter du côté de l'un et même de ce qui est la source de l'un? C'est-à-dire de ce que, bon, je, à défaut d'autres mots, je vais appeler de l'un barré. L'un d'avant même l'un dont on peut parler. Mm-hmm. Est-ce que ça ne serait pas ça le fond même des choses? Et est-ce que de ce point de vue-là, il n'est pas extrêmement proche de certains penseurs chrétiens? Ou peut-être certains penseurs chrétiens, je pense évidemment aux pseudo-Denis, ou des gens comme Jean-Chrysostome, etc., ne sont pas extrêmement proches des néoplatoniciens.
Oui. Mais je ne pense pas qu'il faille assimiler, qu'il faille donner une appellation de Dieu à l'un. L'un, c'est une chose, les dieux, c'est une autre chose, la hiérarchie divine, c'est une autre chose. Donc je crois qu'il faut peut-être maintenir les deux appellations séparées. Parce que sinon, on va arriver à la grande question, est-ce qu'il n'y avait pas un certain monothéisme chez les néoplatoniciens? Et ça, je pense que c'est une fausse question, c'est une catégorie qu'on ne doit pas envisager chez ces penseurs. Mais maintenant, c'est vrai, bien entendu, qu'il y a des points de rapprochement absolument intéressants entre des auteurs chrétiens, comme le pseudo-Denis, justement, chez qui on trouve le terme théurgie, Et les philosophes néoplatoniciens, en effet.
Mais c'est pour ça, dans la question, justement, je disais, je ne me sers plus du mot Dieu, je me sers de la notion, évidemment beaucoup plus vague, de divin en tant que tel. Oui. C'est-à-dire de ce qui, à la limite, serait à la source de la figure des dieux. Encore en deçà.
Oui, si, oui, je suis assez réticente. Moi, je me cantonnerai à l'un, simplement. En sachant, bien entendu, qu'on se trouve dans quelque chose de divin. Je crains un petit peu qu'avec le terme divin, on qualifie mal les choses.
Bien, alors, nous allons laisser ce terme de divin de côté, mais on se retrouve quand même le problème dans ce mouvement de conversion de l'âme, enfin de retour vers elle-même. Et c'est-à-dire, en fin de compte, jusqu'où peut-elle remonter? Et jusqu'où cherche-t-elle à remonter?
Alors ça aussi, c'est une question assez difficile et qui apparaît directement quand on lit le De Mysteriis de Jean Blic, par exemple, hein, bon, qui reste quand même, disons, le texte le plus cohérent sur la théurgie. Chez Proclus, il faut aller chercher un petit peu à gauche et à droite des renseignements. Enfin, chez Jean Blic, contrairement aux apparences, parce que le texte est quand même fort complexe, il y a toute une logique interne. Alors on est frappé parce que l'un, effectivement, a sa place dans le De Mysteriis, et que Jean Blic dit clairement que au terme de la théurgie, puisque la théurgie est quand même une longue ascension, et il reconnaît qu'il n'arrive que très rarement qu'on arrive au sommet de la théurgie, le terme de la théurgie, c'est l'un. Ça, c'est clairement dit dans le texte. Et puis, à côté de cela, on trouve aussi une autre affirmation, que grâce au rite théurgique, l'âme va pouvoir se reposer parfaitement dans le démiurge. Donc c'est assez surprenant. L'âme arrive jusqu'où? Est-ce qu'elle arrive jusqu'au démiurge? Ou est-ce qu'elle arrive jusqu'à l'un? On est un petit peu ennuyé avec cette question. Alors si on étudie un petit peu le statut du démiurge chez Jean Blic, il semblerait qu'en réalité il y a deux démiurges. Il y a un démiurge cosmique et il y a un démiurge qui est supérieur au démiurge cosmique. Et que tout fonctionne chez Jean Blic dans un discours qui est fondé sur l'imitation. On voit très bien, par exemple, que pour essayer de faire comprendre à son lecteur comment fonctionne la théurgie, il va faire une comparaison avec la démiurgie. Il va dire, par exemple, dans le processus démiurgique, chaque élément de la hiérarchie va jouer un rôle. Les démons vont jouer un rôle vis-à-vis de l'âme qui est en dessous d'eux. La nature même, qui est pourtant très bas dans la hiérarchie, va jouer un rôle qui est d'imprimer une forme, par exemple. Et donc ce processus démiurgique est un processus de mise en forme qui consiste, dit Jean Blic, à donner une forme à ce qui n'a pas de forme, à rendre discible ce qui est indicible. Eh bien, il va dire la théurgie fonctionne exactement de la même façon. Le rite théurgique permet de rendre discible quelque chose qui est indicible. On permet de dire, finalement, quelque chose que l'on ne peut pas dire. Et on se rend compte que ce concept d'imitation est un concept qui va sous-tendre véritablement toute la logique du texte de Jean Blic. Et on va comprendre que la démiurgie fonctionne, elle aussi, parce que le démiurge va imiter un modèle qui lui est évidemment supérieur. Alors on comprend que puisque le rite théurgique fonctionne par imitation du processus démiurgique, une fois que l'âme va pouvoir arriver grâce à la théurgie jusqu'au démiurge, par imitation, comme le démiurge a imité également, par imitation, elle va pouvoir imiter un modèle qui est supérieur au démiurge. Donc, ce qu'on comprend, c'est que on va, disons, pouvoir, en tant que théurge, placer son âme à un certain niveau de la hiérarchie, qui est au niveau du démiurge, non pas cosmique, du démiurge interne au cosmos, mais d'un démiurge supérieur, et ça apparaît très, très clairement chez Jean Blic. Et une fois qu'on est à ce niveau-là, par imitation, on va pouvoir s'élever jusqu'à l'un. Donc ça, c'est un concept important pour déterminer finalement quel est le but ultime de la théurgie et comprendre ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe dans les textes.
Notre esprit, se concentrant, s'entretient avec lui-même d'abord, puis seul à seul avec Dieu, sans que personne y fasse obstacle. Car l'esprit n'a pas besoin d'oreille pour apprendre, pas plus que Dieu n'a besoin de voix pour enseigner le devoir. Mais, en dehors de toute sensation, il y a communication entre notre intelligence et l'être supérieur. Comment et par quels moyens ? Je n'ai pas le loisir de l'examiner en ce moment. Mais de cela, on a des témoins clairs et sûrs parmi ceux que la sagesse élève au premier rang.
Lorsque l'âme débouche sur, disons, cette vision de l'un, encore de quel un s'agit-il ? Est-ce que c'est l'un manifesté ? Est-ce que c'est l'un comme pur jaillissement, en quelque sorte ? Est-ce que c'est l'un dans son indicibilité même ? Ou est-ce que c'est l'un dans la mesure où il se donne déjà à penser ?
D'après Jean Blic, on arrive jusqu'au sommet de l'un, c'est-à-dire qu'on franchit l'étape de l'indicible, de l'un qui ne se laisse pas intelliger, finalement, qu'on ne peut pas atteindre avec l'intellect. Et alors là, on rejoint un petit peu ce qui a été dit ailleurs chez Jean Blic et que j'ai rappelé au début de notre entretien, à savoir que on dépasse totalement le niveau intellectuel. Et comme il y a de nouveau ce concept d'imitation qui va jouer, à partir du moment où on va commettre un acte qui dépasse l'intellectuel, on va pouvoir arriver aussi à un niveau qui va dépasser le niveau intelligible. Donc chez Jean Blic, je pense qu'il apparaît assez clairement qu'on atteint véritablement le sommet du sommet grâce à la théurgie.
Alors, en même temps, c'est précisément, je dirais, dans ce chemin accompli par l'âme et la manière dont elle l'accomplit, quelle est exactement la fonction du symbole ? Parce qu'apparemment, le symbole est aussi là pour pallier certaines choses que l'intellect ne peut pas accomplir.
C'est ça, oui, exactement. Alors, le concept de symbole est finalement très large, parce que si on se situe, par exemple, au niveau le plus bas de la théurgie, je ne pense pas que ce soit péjoratif de dire le niveau le plus bas, je ne pense pas que ce soit comme ça que Jean Blic l'entend, mais si on commence, disons, ce cheminement qui doit arriver en principe jusqu'au sommet du sommet, eh bien le sacrifice sanglant va être considéré comme un acte symbolique, donc comme un symbole actif. Donc on a déjà une notion de symbole qui se situe à un niveau relativement primitif dans le rituel. Et ce symbole va probablement, à mon avis, il est présent à chaque niveau, mais il va bien entendu évoluer pour devenir un symbole absolument immatériel.
Mais est-ce que c'est là où on se trouve ? Je pense par exemple à une page de l'empereur Julien, où il parle du sacrifice des Galles.
Oui.
Où il part effectivement au départ du sacrifice des Galles tel qu'il était, c'est-à-dire de l'auto-castration, en tant qu'elle était directement passée à l'acte, et il va donner une interprétation allégorique, disons, dans laquelle il explique qu'en réalité, c'est le sacrifice de l'âme sur elle-même afin de s'épurer et afin de pouvoir accéder à un certain niveau de vision. Est-ce que c'est à ce genre de choses que vous faites allusion ? À cette manière de comprendre et à cette manière de montrer comment le même acte peut se comprendre à différents niveaux de signification et comment, lorsqu'on arrive au plus haut, je dirais, le rituel tel qu'il était généralement mis en acte avant, en réalité a perdu toute sa charge existentielle. Enfin, ce n'est plus, je dirais, qu'une figure de l'âme, d'une certaine manière.
Oui, en effet. Oui, je pense qu'on pourrait voir les choses comme ça, en effet. L'acte d'autocastration des Galles est effectivement un acte symbolique, mais ça fait partie, comme je prenais l'exemple du sacrifice tout à l'heure, des multiples formes que peut revêtir le symbole en acte, qui est le symbole théurgique.
Est-ce que le symbole aussi n'a pas une fonction, qui n'est pas d'ailleurs, enfin, d'après la connaissance des textes que j'ai, pas spécialement explicité, est-ce que ça n'a pas la fonction de rendre représentable ce qui ne l'est pas, de rendre audible ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire de nous permettre d'avoir accès à une réalité tout en lui gardant son mystère et tout en lui gardant son secret, en quelque sorte. Parce que enfin, ce qui me semble tout au moins, c'est que l'un des grands problèmes de la philosophie néoplatonique, enfin philosophie, il faudrait redonner son sens ancien au mot de philosophie, et non plus le sens que ça a aujourd'hui, mais la philosophie néoplatonicienne, c'est toujours comment, finalement, on est tout le temps en train de... On est tout le temps en train de tourner autour de cette notion centrale de l'inconnaissable. Et comment se fait-il que nous puissions connaître quelque chose de l'inconnaissable ?
On ne peut pas le faire de sa propre initiative. On ne le fait justement qu'avec l'aide des dieux. Si on pense par exemple à ce que Julien a dit à propos du mythe, il y a deux façons d'aborder un récit mythique. Soit on le lit et on prend pour argent comptant le récit mythique tel qu'il est écrit, donc on le prend au pied de la lettre, soit on se dit qu'il y a un message secret qui est détenu là-dedans, et pour Julien, on ne pourra avoir accès en quelque sorte à ce message non dit, à ce message secret, que si on a préalablement effectué un certain nombre de rituels qui vont nous permettre de bénéficier de l'aide des dieux. Sans l'aide des dieux, le discours mythique ne peut pas être décrypté. Donc avoir accès à l'indicible, c'est d'abord pouvoir avoir un contact privilégié avec la divinité, parce que la divinité va nous aider justement à pénétrer l'indicible, même si l'indicible, finalement, est le divin lui-même. Donc on a un petit peu quelque chose qui tourne en rond, on a quelque chose d'autotélique dans ce raisonnement.
Mais là aussi, je dirais, est-ce que ça ne s'appuie pas sur tout un fond et toute une tradition de réflexion depuis un ou deux siècles, au moment où parlent des gens comme Jean Blic jusqu'à Proclus? Parce que je pense à quelqu'un comme Philon d'Alexandrie et la lecture allégorique qu'il y a, par exemple, des récits bibliques, ou je pense dans les Stromates, quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, la manière dont il va parler, effectivement, de la façon dont il faut comprendre les textes sacrés, dont on a l'impression qu'il y a quand même une très grande parenté de pensée.
Évidemment. On est dans un contexte religieux où les différents courants qui sont pourtant antagonistes ont énormément de points communs. Et d'ailleurs, Saint Augustin l'a très bien remarqué lui-même, puisqu'il déplore que finalement, il a beaucoup d'admiration pour les philosophes platoniciens. Il dit, c'est quand même dommage, avec tous les points communs qu'on a entre nous, que les philosophes platoniciens reconnaissent l'existence de plusieurs dieux. C'est leur seule erreur. Saint Augustin le dit clairement. Les platoniciens ne se trompent pas beaucoup, ils se trompent sur un point. Pour eux, ils ne veulent pas reconnaître un seul Dieu. Bon, je crois que ça, c'est évident pour tous les penseurs de l'époque, qu'ils soient païens ou qu'ils soient chrétiens, et c'est pour ça qu'on a des textes qui sont tellement subtils et tellement difficiles à interpréter, c'est qu'on se trouve finalement dans des discours qui sont très proches. Et où la façon d'argumenter des auteurs, qu'ils soient païens ou chrétiens, et façon d'argumenter qui est souvent une interprétation, une distorsion de certains textes fondateurs, comme le platonisme, qu'ils soient interprétés par des chrétiens ou par des païens, finalement, il est interprété pourquoi ? Il est interprété pour étayer deux thèses finales qui sont en opposition l'une avec l'autre. Mais on a tout un cheminement qui est identique. Simplement, la conclusion auquel les uns et les autres arrivent est différente sur des points fondamentaux comme l'existence d'un dieu ou de plusieurs dieux.
Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une des choses qui rend ce type de philosophie, ce type de démarche si difficile à comprendre aujourd'hui, dans la mesure où on peut dire, peut-être, que c'est une démarche, je dirais, d'ordre mystique, Et en même temps, on est obligé de dire que c'est une démarche qui est totalement rationnelle et totalement argumentée. Alors que nous, nous avons plutôt pris l'habitude de dire maintenant c'est mystique ou c'est rationnel.
Oui.
Parce que là, on a l'impression vraiment que l'un épaule sans arrêt l'autre.
C'est ça, oui. Je pense que, en effet, chez Jean Blic, par exemple, il y a véritablement un effort de rationaliser l'irrationnel, finalement.
Est-ce que c'est un domaine irrationnel parce que, d'une certaine manière, je dirais, la raison a été poussée au bout et qu'on arrive dans une zone où la raison abdique? Ou est-ce que c'est irrationnel en tant que ça refuse la raison? Lorsqu'on lit Proclus, lorsqu'on lit Damasius aussi, je veux dire, lorsqu'on arrive à cet un au-delà de toute saisie, qui effectivement est au-delà de l'intellect même,
oui.
On voit quand même que c'est par une très profonde démarche rationnelle qu'on y arrive.
C'est une étape nécessaire. Jean Blic ne le nie pas d'ailleurs. Comme la philosophie, pour lui, est une étape nécessaire pour être, avant d'être théurge, il faut être théologien, et avant d'être théologien, il faut être philosophe. Et je pense que quand il envisage la philosophie, il l'envisage comme une activité de l'intellect, comme une activité rationnelle, qui sera une activité préparatoire à l'activité théurgique elle-même, qui à ce moment-là va dépasser toute démarche intellectuelle ou rationnelle. Mais effectivement, le rôle de l'intellect n'est absolument pas balayé, ni chez Jean Blic, ni même dans les oracles chaldaïques d'ailleurs. Mais disons que l'intellect est insuffisant.
Livre.
Dans un contexte qui est assez éloigné d'une certaine façon, mais qui pourtant est assez proche du thème de la théurgie, je voudrais signaler l'édition aux éditions Hazan, du Livre des Morts, tel qu'il a été recomposé et tel qu'il avait été abrégé en même temps dans sa version standard par Ernest Wallis Budge. Dans un contexte éloigné et pourtant proche du néoplatonisme, dans la mesure où ce Livre des Morts nous a été transmis en même temps et a irrigué toute la réflexion hellénistique telle qu'elle s'est produite à Alexandrie, le lieu de passage, si l'on peut dire, entre l'antique civilisation égyptienne et en même temps les nouvelles philosophies qui sont celles du Moyen et du Bas Empire romain. Et à travers cet ouvrage, c'est l'accès qui nous est donné à un texte par ailleurs extraordinairement touffu, souvent très difficile à comprendre si l'on n'a pas tous les référents culturels nécessaires, et c'est donc une méditation qui nous est offerte sur ce qu'est le destin de l'âme, et d'une certaine manière, quelle est la vocation de cette âme, quelle est en même temps la manière dont elle peut se purifier, dont elle peut s'expurger des hasards malheureux de la vie afin d'affronter le jugement dernier qui est celui d'Osiris. Je suis un homme droit et juste qui a placé Dieu dans son cœur. Je suis arrivé à cette cité d'éternité après avoir fait le bien sur la terre. J'existe comme un être irréprochable, sans accusateur, et sans qu'il y ait eu de péché de ma part devant eux. En prolongement direct, bien entendu, de ce Livre des Morts, on peut s'intéresser à l'ouvrage de Françoise Dunant et Christiane Zivé-Coche, Dieu et homme en Égypte, aux éditions Armand Collin. S'appuyant, en effet, en grande partie sur le Livre des Morts, mais étendant très largement le propos à tout ce qui a été l'univers religieux des Égyptiens, depuis le plus haut empire jusqu'à la période hellénistique, on voit bien là comment éventuellement, au bout d'une très longue évolution, se fait la rencontre avec le mode de pensée hellénique, avec ce qu'il faut bien appeler la philosophie grecque, ce que l'on va rencontrer en partie, même si Jean Blic, dont nous avons parlé dans cette émission, s'appuie bien entendu et de très près sur les oracles chaldaïques, mais que Jean Blic met en scène lui-même en intitulant, ou tout au moins la tradition a donné ce nom à l'un de ses traités principaux, en intitulant l'un de ses textes « Les mystères d'Égypte ». Quand je me fus manifesté à l'existence, l'existence exista. Et c'est ainsi que l'existence vint à l'existence. Car j'étais antérieur aux dieux antérieurs. Car je fis l'ère antérieure ainsi que les dieux antérieurs. Enfin, il peut être tout à fait passionnant de parcourir l'étude de Pascal Viroux, La table des dieux, aux éditions Piron. La table des dieux, de quoi s'agit-il, si ce n'est à la fois de l'histoire, du légendaire, du symbolisme, des produits alimentaires et de la cuisine, tels que les consomment les dieux en haut de leur montagne sacrée, et particulièrement, bien entendu, de l'Olympe. Mais beaucoup plus largement que l'Olympe, c'est une réflexion sur tous les rapports de la nourriture, et donc en même temps du sacrifice, puisque le sacrifice est généralement le sacrifice d'un animal ou de la graisse animale, le rapport du sacrifice avec les dieux. Et c'est une manière tout à fait nouvelle, tout à fait enseignante en même temps, de réflexion sur le statut de la religion et éventuellement sur une des grandes structures sur lesquelles généralement on n'insiste pas assez, des grandes structures des systèmes religieux à travers lesquelles on voit et on peut continuer la méditation bien entendu jusqu'au mystère de l'Eucharistie dans le christianisme, dans lequel on voit comment à travers l'oralité, à travers les produits de la bouche, à travers la manière dont on s'incorpore les matières, s'établissent des rapports entre les hommes et les dieux. Je me suis enfoncé sous le sein de la maîtresse, la reine de ceux qui sont en bas. De la couronne désirée, je me suis enfui, courant de mes pieds rapides. Ô bienheureux, ô être de félicité, tu seras Dieu au lieu d'être mortel. Chevreau, je suis tombé dans le lait.
Le livre des morts de Ernest Wallis Botsch aux éditions Azan. Dieu et homme en Égypte de Françoise Dunant et Christine Zivekotch aux éditions Armand Collin. Et La table des dieux de Pascal Viroux aux éditions Piron.